Merci et bonsoir à toutes et à tous.
L'heure bleue sur France Inter.
Alvaro Brejner est notre invité à l'occasion de son nouveau film intitulé Compañeros. Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique. Et ce soir, ça sera avec Serge Gainsbourg.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir, jour après jour. Les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir.
C'est en Uruguay, dans votre propre pays, que vous écoutiez Serge Gainsbourg, Alvaro.
Enchanté, vraiment, c'était un moment très, très spécial d'écouter la chanson de Prévert à Paris, ici.
Interprété par Serge Gainsbourg.
Ouais, mais c'est une des choses un peu drôle que pour moi, toujours, cette chanson, il y a une chose très... Le son de la voix de Serge dans cette chanson et surtout la guitare, c'est tellement... Il me prend tellement près d'un joueur de l'Uruguay, Alfredo Zitarrosa. Je ne sais pas si vous connaissez la France, mais il est un guitariste génial, incroyable. Et c'est incroyable la sonorité d'une chose tellement de l'Europe, de la France, est tellement près de ma sonorité à l'Uruguay.
Alors aujourd'hui, vous vivez à Madrid, vous êtes un cinéaste important, on va comprendre pourquoi. Votre nouveau film s'intitule Compañeros et il sort sur les écrans en France. Il avait été sélectionné dans de nombreux festivals internationaux, vos deux films précédents aussi. Comment s'est passée votre enfance en Uruguay ?
Mon rappel, c'est très... Bon, moi, j'adore l'Uruguay, je suis parti de l'Uruguay. Il y a une chose que... Moi, je suis né en 1966 à l'Uruguay. Et toujours, on a, comme c'est un pays quand même petit en termes de, c'est pas un pays petit en termes géographiques, même si c'est le pays plus petit de la Sud-Amérique, et en termes de l'Europe, mais il y a seulement 3 millions de population, d'habitants. Donc, toujours, on a eu l'idée de ce qui, des Uruguayens qui ont parti de l'Uruguay, surtout à la dictature et tout ça, et cette idée que des Uruguayens qui habitent pas à l'Uruguay, ils sont pas plus de Uruguayens, il a toujours l'idée de l'étrangère. Et ça, c'est une chose qui a changé depuis beaucoup d'années, après la dictature et tout ça, de cette idée que l'Uruguay, c'est pas seulement celui qui, les personnes qui habitent à l'Uruguay, mais aussi toutes les personnes qui font partie de l'Uruguay, même s'ils habitent dehors.
Alors justement, votre nouveau film intitulé Compañeros revient sur ces années noires de la dictature militaire qui a commencé à s'instaurer en 1973, mais aujourd'hui, en 2019, vous êtes le pays qui sert de référence démocratique pour toute l'Amérique latine. Comment se passe la vie politique en Uruguay ?
Bon, l'Uruguay, c'est un pays, je pense, qui est vraiment extraordinaire. C'est difficile de parler de toi-même ou de ton pays, parce que toujours tu es en train de... bien sûr très subjectif, mais ce que je crois que à l'Uruguay il y a une chose extraordinaire qui est c'est une chose d'un État que les institutions de la fondation de l'État qui ça vient de la fin du siècle 19, ce sont vraiment très modernes, très incroyables en termes de très solides et avec une constitution très qui a été beaucoup changé, mais quand même un État laïque, oui. une division de pouvoir très très solide de la justice et du pouvoir législatif et exécutif. C'est une chose, même si on a vécu ces 12 ans terribles d'une dictature, que c'était vraiment exceptionnel pour l'histoire de l'Uruguay. C'était pas tellement extraordinaire ou spécial pour tout le continent, parce que c'était un continent plus près. C'était toujours la démocratie, la dictature dans les siècles 20 à la Sud-Amérique. C'est une histoire très complexe et très fragile d'une façon, mais à l'Uruguay, c'était vraiment solide.
En tout cas, vous vivez sous un régime démocratique, ouais, avec des possibilités de raisonner en tant que citoyen démocratiquement à tous les échelons de la société. Il y a une appartenance syndicale extrêmement forte. Vous avez des lois qui sont très en avance par rapport aux autres pays d'Amérique latine. Est-ce que vous pensez que cet exemple démocratique qu'incarne l'État d'Uruguay aujourd'hui en 2019 est le contre-coup de ces années de dictature militaire et que le peuple a voulu, justement, après ces années noires, vivre et incarner la démocratie?
Oui, mais toute l'histoire, vraiment la dictature à l'Uruguay, c'était vraiment une exception dans l'Uruguay. C'est une chose je pense que l'Uruguay comme pays et comme société a jamais cru que ça pourrait aller passer. Mais c'est une chose vraiment, c'est une chose qu'on peut comprendre par des circonstances dans l'Uruguay, mais aussi par des circonstances extérieures de l'Uruguay, que c'est tout un continent qui a devenu dans un moment de la guerre froide et dans ce moment après l'expérience de Cuba et toute la chose de les luttes dans la société, dans un pays entre les États-Unis et la Russie et tout ça. Il a devenu de moments très complexes à toute la Latinoamérique et aussi dans beaucoup de différents pays, de pays qui sont sortis en guerre. Et à la Sud-Amérique, on a eu la réponse à ça. Il a été de coup d'État.
Et vous, vous avez été engagé politiquement dans votre jeunesse?
Non.
Alvaro Brezhnev?
Non.
Artiste?
Ouais.
Artiste dès le début?
Oui. La vérité, c'est que la démocratie a retourné quand j'étais vraiment jeune. J'avais 9 ans. C'est une chose qu'on se rappelle beaucoup de petits moments qu'on commence à penser à elle après qu'on est plus grande et on commence à comprendre des choses que ça passait autour de toi, mais c'était pas une chose vraiment que quand tu as 9 ans, tu moi je me rappelle bien sûr qu'on a le retour à la démocratie et tout ça. Après, l'Uruguay a retourné à la démocratie immédiatement et c'est une chose complètement instaurée et il n'y a aucune type de doute à ça.
Jamais. Mais on peut dire quand même, Alvaro Brezhnev, que vous êtes peut-être, je ne sais pas si vous acceptez cette qualification, mais un cinéaste engagé, car ce dernier film, Compañeros, qui revient sur ses années de dictature militaire et qui va s'attacher à restituer le destin de 3 prisonniers politiques sur 9 prisonniers politiques des fondateurs des Tupamaros, porte témoignage d'une histoire ô combien vivante, très ignorée par nous, occidentaux, mais ô combien vivante. Donc, est-ce que vous considérez que le cinéma a aussi une fonction de restitution d'une mémoire collective?
Moi, c'est une question très difficile à répondre, parce que moi, je crois être un réalisateur très engagé à des choses qui font partie du cinéma. Et même, je pense qu'un de problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de fois qu'on pense que le cinéma ou un acte créatif peut restituer une histoire ou un problème collectif d'une société. Et même si, quand tu trouves un sujet qui est tellement près de ta histoire et tellement, quand on trouve un sujet tellement épidermique, et c'est une chose qu'on peut pas, c'est difficile de prendre une bête qui est tellement complexe. Pour moi, le sujet politique, toujours, de cette histoire, c'est comme tu as mentionné maintenant de prisonniers politiques, et pour moi, c'était des prisonniers humains. Et comme quitter la chose plus de, pas seulement de la politique, mais aussi de l'essence. Cette idée de si l'existence précède à l'essence de Sartre, comme retourner à l'existence. Et comme même s'ils ont des politiques ou des Tupamaros, des gauches, des droites, de n'importe quoi, bien sûr, vous avez une idée de, c'était dans ce moment vraiment spécial où ils avaient des gens qui voulaient changer le monde. Ils croyaient que le monde pouvait être changé et être amélioré ou, et bien sûr, ils ont fait des choses, mais cette chose de comprendre que le monde, il bouge pas. Tu sais, le problème que quand on commence cette lutte, le monde revient et comment travailler sur cette idée de la solitude, cette idée de que tu es dans un désert et tu peux pas parler, tu peux pas utiliser tous tes sens, tu peux pas voir parce que tu habites dans une cellule de 1,5 mètre. Et ça prend 1, 2, 3, tu sais pas combien des années tu vas rester. C'est une condamne que c'est un peu kafkien dans une façon, parce que ça, maintenant on sait que un d'eux a fini pour être président, un autre ministre, un autre écrivain de l'Uruguay. Mais à ce moment-là, il savait pas combien de temps ils allaient rester là-bas.
Alors je vous propose d'écouter une archive INA du 27 juin 1973 qui va pouvoir nous faire comprendre les conséquences de ce coup d'État militaire qui a eu lieu dans votre propre pays et qui est à l'origine de votre quête pour essayer de redonner dignité à ces prisonniers qui, pour des raisons politiques, au moment de l'arrivée des dictateurs au pouvoir le 27 juin 1973 en Uruguay, ont été mis pendant combien d'années déjà en prison?
12.
pendant 12 années en prison. On écoute l'archive du 27 juin 1973.
Revenons à l'étranger. C'est le scénario classique du coup d'État qui s'est déroulé cette nuit à Montevideo, la capitale de l'Uruguay. Le Parlement a été dissous, plusieurs ministres ont démissionné et toutes les radios du pays sont passées sous contrôle militaire. On s'y attendait d'ailleurs un peu dès hier soir et lorsque la nouvelle officielle du coup d'État a été annoncée ce matin à 10h18 exactement, la surprise n'a pas été très grande. Pour nous en tout cas.
Montevideo, 5h ce matin, la rumeur persistante d'un coup d'État se concrétise. Toutes les radios privées d'État passent sous contrôle militaire. L'ordre vient de l'état-major général des forces armées. Mais très vite, la population qui se réveille comprend qu'il s'agit d'un coup d'État pacifique. C'est en fait l'actuel président de la République, Juan María Bordaberry, que l'on voit ici au centre de l'écran, qui a pris ce matin tous les pouvoirs en Uruguay. Il vient en outre d'annoncer officiellement la dissolution du Parlement et la création d'un Conseil d'État. Il est appuyé dans ce coup d'État par le ministre de la Guerre, M. Walter Ravena. Dans un message qu'il a lu ce matin sur les antennes contrôlées par les militaires, le président a précisé que le nouveau Conseil d'État aura les fonctions du Parlement et devra contrôler le pouvoir exécutif et élaborer un projet de réforme de la Constitution. Première réaction de ce coup d'État en Uruguay, les ministres de l'Éducation et de la Santé ont démissionné. Première conséquence, le projet d'une augmentation générale des salaires pouvant aller jusqu'à 100%. L'atmosphère, elle, reste calme en Uruguay, mais l'armée est aujourd'hui dans la rue.
Nous venons d'entendre l'annonce du coup d'État en Uruguay le 27 juin 1973, suivi d'un extrait de votre film qui sort sur les écrans en ce moment même, Alvaro Breschner, qui s'intitule Compañeros. Et juste au moment de l'avènement de cette dictature militaire, eh bien les Tupamaros, mouvement politique qui a été très important dans les années 70 et qui est aujourd'hui un peu oublié, eh bien ces Tupamaros vont être arrêtés par le régime militaire. Et vous, vous allez vous attacher en tant que cinéaste qui, par définition, vu votre jeune âge, n'avait pas connu ces événements pour pouvoir les comprendre, puisque vous étiez encore un enfant, vous êtes attaché à partir d'un livre, je crois, qui restitue le destin de trois de ces personnes, Tupamaros, vous êtes attaché à nous faire comprendre, nous spectateurs, ce que ça veut dire de passer 12 ans en prison. Et à travers ce court extrait sonore, on comprend bien qu'il s'agit d'un film qui nous enveloppe, qui nous fait partir nous-mêmes en prison. Comment est né ce projet ?
C'est une histoire vraiment pas secrète, mais c'est après 12 ans de dictature à l'Uruguay, on a tellement des histoires, tellement de milliards d'histoires, pas seulement de prisonniers, mais aussi de personnes qui ont vécu la dictature comme être dans sa vie normale, et tu sais, mais avec tellement de choses qu'ils pouvaient pas, de liberté qu'ils s'étaient coupés. Mais cette histoire, c'est une histoire vraiment que quand, moi je la connaissais un peu, car, parce que j'étais proche, j'avais lu un livre que deux de trois personnages du film, ils parlent de ces histoires dans ces 12 ans, que c'était de Mauricio Rosenkopf et de Leutero Fernández Huidobro, qui après a devenu ministre, un autre très grand écrivain, qui après être, qu'ils ont sorti, après de ces 12 ans, ils ont eu une deuxième condamne. Et ils ont été arrêtés au début 1972 avec beaucoup des autres prisonniers. Vraiment, la prison était pleine de prisonniers politiques, prisonniers tout pas mal, communistes, étudiants, toutes les personnes qui étaient contre le régime. C'est comme dans chaque dictature, bon, c'était pleine la prison. Mais il y avait eu une deuxième plan, que c'était de convertir à neuf Tupamaros en, comment tu dis, otages. Donc, ils ont, une nuit, en septembre 1973, ils sont rentrés à la prison, les militaires, ils sont partis avec neuf d'eux, ils ont fait des divisions entre trois, et la chose qu'ils voulaient faire, c'est le rendre fou. Presque un expériment diabolique.
Une expérimentation humaine. Ouais. Ils les ont pris comme des cobayes.
Ouais. Et aussi parce qu'ils voulaient, ils avaient l'idée de que s'il passait un attentat de Tupamaros, dehors l'Uruguay ou quelque chose, dénonce tout ça, ils pouvaient prendre leur vie comme otage. Mais la chose était vraiment diabolique. Ils pouvaient pas parler avec personne. Personne pouvait leur parler. Ils étaient vraiment en isolation, en isolement. Isolement. Et ils savaient même où ils étaient. Ils pouvaient pas connaître même leur. Et ils pouvaient pas formuler aucun type de chose qu'on connaît comme expérience humaine en termes de communication. Ils pouvaient pas prendre même une narration de leur vie parce qu'ils ont commencé
pour certains à devenir un peu fous parce qu'à force de privation sensorielle, d'enfermement, d'impossibilité de voir la lumière, cette solitude qui les écrase, tout a été fait pour les rendre fous et qu'ils sortent fous si jamais un jour ils avaient eu l'idée de sortir. Donc ce qui vous a intéressé, vous, en tant que cinéaste, Alvaro Brejner, c'est évidemment de nous faire comprendre de l'intérieur les conditions carcérales épouvantables qu'ils ont endurées, mais surtout, et c'est peut-être là qu'est le cœur battant de votre film, c'est comment, dans l'indignité qui leur est faite, ils vont sans arrêt respecter leur dignité d'être humain.
Absolument. La première fois que je parlais avec eux de ce projet, c'était avant le tournage de mon deuxième film. Et la chose que ça m'a pris la plus incroyable, c'était, j'étais avec Mujica, qui lui était déjà le président de l'Uruguay, et Huidobro, c'était le ministre, et Rosenkopf était aussi là, et on était en train de demander, parce que c'est une investigation de beaucoup d'années avec eux, et d'essayer de comprendre cette expérience. Pour moi, le film devait être une expérience. Et la chose la plus incroyable, c'était, ils étaient les trois d'eux en train de rire tout le temps de leur passé, leur situation et bla bla. Et pour moi, c'était une expérience tellement vitale, tellement existentielle, qu'ils pouvaient, comment dans les pires des circonstances, quand même, ils pouvaient résister comme des êtres humains et d'avoir quel type de révélation. Dans un moment, Mujica, même dans sa chambre, dans sa cellule présidentielle, il m'a dit,
dans son bureau présidentiel, il m'a dit,
tu sais Alvaro, il y a des fois que je me réveille, j'ai de la manque de ce jour. Comment?
La prison lui manque.
Oui, ce type de haïs le monde. Et parce que après sortir, j'ai pas eu jamais le temps d'être moi-même. Bien sûr, c'est les pires 12 années que j'ai passées dans ma vie, mais aussi ce sont les années que j'ai appris le plus de moi-même. Et c'était pour moi une chose que tellement forte de faire la récréation seulement historique, mais aussi de voir comment, dans les pires circonstances, même un homme a le choix de décider quel type d'homme il est.
Alors vous venez de citer José Pepe Mujica, c'est une des trois personnages de votre film. Vous l'avez dit tout à l'heure, Alvaro, au départ, il y a 9 Tupamaros qui ont été pris dans une prison. Et puis, ces prisonniers Tupamaros ont été mis à l'isolement, envoyés dans des prisons sans savoir même dans quel lieu géographique ils étaient détenus. Les familles n'avaient aucune nouvelle d'eux. Les familles ne savaient même pas si leur frère ou leur mari était vivant ou pas. Et vous avez choisi de restituer la vie de 3 d'entre eux sur ces 9 personnes. Parmi ces 3 d'entre eux, vous l'avez dit, l'un est devenu un grand écrivain, l'autre est devenu aussi un homme politique, et le troisième, José Pepe Mujica, après ses 12 années, comme ses 2 camarades, eh bien, il est devenu sénateur, puis ensuite président de la République. Connaît-on dans le monde un destin aussi extraordinaire que celui de Pepe Mujica, d'ex-prisonnier politique, être devenu président de la République?
Oui, je pense que c'est vraiment une histoire plus proche de Ray Bradbury ou vraiment de Philip K. Dick, quelque chose, ou Jack London, ce type de histoires vraiment extraordinaires. Il y a eu des présidents qui ont été détenus dans beaucoup des années,
Mandela,
même comme Mandela, tout ça.
Évidemment, on pense à Mandela, on pense à Vaclav Havel.
Ouais.
Mais là, avoir traversé 12 années de prison dans de terribles conditions et ensuite, en sortant, avoir le goût de s'occuper de son peuple et de parvenir à la présidence de la République, chapeau bas quand même.
Ouais, la chose c'est que si tu, j'ai pas pu avant, mais si tu aurais demandé à Mujica et même à n'importe qui à l'Uruguay, 5-10 ans après la dictature, s'il croyait que Mujica pouvait être président, personne, même Mujica allait dire non. Quand Mujica sort de la prison, quand il sort, il est un milliard de prisonniers. Bien sûr, il a vécu des choses tellement, vraiment terribles, mais quand même, personne pense à que lui est, bien sûr, lui, il était un des leaders de Tupamaro, mais c'était même pas le leader de Tupamaro, c'était un de plusieurs. Et l'histoire de Mujica après, ce que ça déroule après, c'est vraiment incroyable. Et quand, une fois, je me rappelle, j'étais à sa maison parce qu'une des choses plus connues, c'est qu'il a changé rien de sa vie privée quand il a devenu président. Et lui, il a pas changé sa maison, il habite vraiment, il dit qu'il habite comme une personne de classe moyenne, mais il habite vraiment, c'est une classe moyenne très, très, baisse, si tu veux, je ne sais pas comment le dire. Et lui, il ne s'est pas changé, il continue à voyager en son Volkswagen, il a aucune aide à sa maison. Et une des fois qu'on était là-bas, à sa maison, en train de parler à ça, et ça, il dit, bon, le problème, c'est que moi, j'ai vécu 12 années sans rien. Et après, avoir pu survivre ces 12 années, moi, maintenant, pour moi, je suis en train d'habiter dans un palace. Pour moi, ça, c'est Versailles. Et tu sais, il habite vraiment dans une petite maison, mais il est vraiment content et joyeux de pouvoir prendre ses propres tomates. Et, ouais. Bon, je ne sais pas comment le dire, mais de planter ces petites choses. Et ça, pour lui, c'est la joie. Parce que c'est vraiment une expérience vraiment spirituelle qu'il a vécue.
Mais c'est ce que montre votre film, Alvaro Brejner, c'est que ces années d'incarcération ont été des années terribles pour le corps, mais ont été des années d'endurance incroyable pour la construction de l'élévation que constitue l'intégrité de sa propre liberté. Vous avez fait un film philosophique. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas pour rien si votre film, intitulé « Compañeros », commence par une citation de Franz Kafka. C'est effectivement, qu'est-ce que la nature humaine? Jusqu'où peut-elle être humaine? Jusqu'où restera-t-elle humaine? C'est un peu un des enseignements que nous avons au moment où nous sortons tout à fait bouleversés par votre film. Je vous propose d'écouter la voix de José Pepe Mujica, qui va parler de sa vie. C'est l'extrait d'un film de Yann Arthus-Bertrand, tourné en 2015 et intitulé « Human ».
Je m'appelle José Mujica. J'ai été paysan pour gagner ma vie, dans un premier temps. Puis je me suis engagé dans la lutte pour transformer et améliorer la vie de ma société. Aujourd'hui, je suis président. Et demain, comme tout le monde, je serai qu'un tas d'asticots et je disparaîtrai. J'ai connu des déconvenues, plusieurs blessures, quelques années de prison. Enfin, la routine pour quelqu'un qui s'emploie à changer le monde. Je suis toujours là par miracle et par-dessus tout, j'aime la vie. J'espère me présenter pour le dernier voyage comme quelqu'un qui entre dans un bar et qui dit au tenancier « c'est ma tournée ».
Ça vous fait sourire, Alvaro Breschner, d'entendre la voix de Pepe Mujica. Que devient-il aujourd'hui et quelle est sa fonction dans votre pays, l'Uruguay?
C'est une question assez difficile parce que ça dépend pour chacun. Je peux pas répondre seulement pour, je peux répondre pour moi, mais pas pour l'Uruguay. La seule chose que pour moi c'est vraiment spécial ou extraordinaire, c'est l'espoir en termes d'une personnalité publique et politique tellement forte, quelqu'un qui est devenu président, qu'il a rapproché une façon complètement différente comme politique de comprendre, d'essayer de comprendre la vie et d'essayer de comprendre l'idée de la joie. Toujours en termes politiques, je suis pas en train de parler en essence technique et comme politique, et politicienne et comme président, mais cette idée de qui vient d'une chose beaucoup plus vieux et historique, et vieux vraiment de Sénéca et du stoïcisme, de cette idée de que la joie, celui qui l'a n'importe quoi, celui qui l'a pas, et il peut pas l'acheter. Et cette idée que on doit, si le jeu c'est pas entre, et peu, si on a des problèmes maintenant avec le jeu qu'on est en train de jouer à l'Occident, par exemple, même à la France, à l'Espagne, à toute l'Europe, et aussi à la Sud-Amérique, et bien sûr aux États-Unis, cette idée de anger, rage.
De violence, de rage.
Rage, de colère, oui. C'est de la colère et la rage. Et on sait pas vraiment comment rencontrer un objectif. Mais on connaît qu'il y a de la rage. Et cette idée de que peut-être, le problème c'est que le jeu qu'on est en train de jouer, c'est pas en train de fonctionner. Tu sais, le problème c'est que, d'une façon ou une autre, c'est pas une chose qu'on peut, tout le monde, on est très compromis en train de chercher de plus de choses que nous rendre vraiment fous en termes économiques, en termes de différences statutaires entre des personnes qui, 2% qui ont tellement d'argent au pouvoir, 98 qui, les différences sont énormes. Mais si on décide de faire une seconde d'attente et dire peut-être le problème c'est pas seulement ça, c'est un problème de un point de vue de comment trouver d'être heureux dans un moment tellement complexe et pas seulement en train de voir le désastre qu'on est en train de construire, mais aussi de changer la façon de connaître notre propre possibilité d'être heureux, de trouver avec de petites choses que peuvent pas être achetées. À ça, je pense que c'est vraiment intéressant comme un président d'avoir ce type de discours.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Alvaro Breschner, The Pixies.
Oh wow.
I'm
Vous dansez quand vous écoutez les Pixies, Alvaro?
C'est un peu bizarre avec le film et Pixies.
Vous êtes un drôle de cinéaste. Hein.
C'est un geste de que si je pense que à l'Uruguay quand on est tellement loin
c'est
de
du
tout
folklore,
part.
Hein. Voilà. Alors vous dansez quand vous écoutez les Pixies?
Oh non, je danse terriblement, mais quand même, j'essaye de jouer. Mais non, c'est impossible de danser, ouais. Tu peux crier et tout ça, ouais. Il y a des fois que c'est un vomi.
On peut sauter aussi ouais, écoutant les Pixies.
Ouais.
Pourquoi avez-vous décidé de quitter votre propre pays, l'Uruguay, pour aller vous établir à Madrid?
Je sais pas si j'ai décidé quelque chose dans ma vie.
Vous êtes stoïcien, alors.
Non, il y a des choses que ça passe, tu sais. Jamais on essaye. Mais on revient à la même chose de la narrative en termes de... Moi, je peux pas faire une comparaison et avec ce qu'ils ont vécu et les protagonistes de mon film. Mais quand tu penses à ta propre vie et tu essayes de rencontrer une significance de pourquoi tu es ici et tu trouves des tas de choses pour dire non, moi je suis sorti de l'Uruguay parce que ça et ça et ça, mais si tu penses au futur, tu sais, la vérité, c'est qu'il y a tellement de choses, de coïncidences, de choses du destin que tu sais pas. Vraiment, jamais j'ai décidé de quitter, je pense même pas que j'ai quitté. C'est bien sûr que j'habite à Madrid, à l'Espagne, mais moi je me sens que
citoyen
jamais
du monde.
Oui, je pense que j'ai pas quitté du tout l'Uruguay. J'ai fait mes trois films là-bas et je continue toujours à être en relation directe avec mon pays. C'est l'Uruguay, bien sûr. Maintenant, j'habite à l'Espagne, mais je crois que l'Espagne est aussi mon pays. Je m'essaie d'approprier de choses.
En tout cas, vos deux premiers films, Mr. Kaplan et puis Sale temps pour les pêcheurs, sont toutes les deux des adaptations d'un très grand écrivain d'origine uruguayenne, hélas pas tellement connu en France. Il a été très reconnu il y a une vingtaine d'années, mais aujourd'hui son étoile a un peu pâli, mais il est disponible en livre de poche. Il s'appelle Juan Carlos Sonetti. Et vous, Alvaro Brejner, vous êtes un cinéaste qui vous intéressait beaucoup plus à la notion de climat, d'atmosphère, de possibilité de comprendre notre être le plus profond, que ça soit avec Compañeros et avec ces luttes de prisonniers politiques qui ont traversé 12 années de prison, mais aussi dans cet avant-dernier film, Sale temps pour les pêcheurs, qui évoquait une histoire très bizarre et très trouble d'un type qu'on appelle le prince et qui est une sorte de manager vieillissant qui s'est approprié, l'action se passe aujourd'hui même, hein, dans votre propre pays, et ce type, un peu vieillissant, s'est approprié le corps, mais pas l'âme, le corps d'un lutteur qui est très puissant et il l'emploie à le balader comme une espèce de, comment dire, de bête de cirque. Il le balade dans les petites villes pour faire payer aux spectateurs le droit de le voir lutter. Qu'est-ce qui vous intéresse finalement dans le cinéma? C'est montrer les rapports de l'intériorité humaine, essayer d'y arriver par des images?
C'est un mixage de choses, oui, bien sûr. Il y a un rapport d'une chose atmosphérique, de rentrer dans un portal de imaginaire. Donc, on voyage et on est d'une façon, on fait une exploration de l'autre, et une exploration d'un univers particulier qui existe, et même si ça peut rouler à l'Uruguay, dans une partie de l'Uruguay imaginaire, et au la France, ou n'importe où, c'est bien sûr une place imaginaire, que seulement habite au cinéma. Et que seulement on commence à voyager en train de, c'est plus proche même du d'être en train de rêver, ouais. C'est plus proche des rêves que de la réalité. Mais quand même, c'est vrai que les histoires qui toujours parlent des êtres humains en train de leur relation, de leur compromis entre un et l'autre, même si t'es en train de raconter l'histoire d'une façon absolument excellente du prince et du lutteur, et c'était une relation toujours de dépendance. Cette histoire de Don Quichotte et Sancho, dans une façon, même aussi dans mon deuxième film, Mr. Kaplan, c'est très, très similaire. Cette idée est aussi dans une façon tellement différente parce que c'est pas, Kaplan, c'est beaucoup plus une comédie, et c'est vraiment différent le sujet de Compañeros, que c'est inspiré dans une histoire vraie, mais toujours avec cette idée de que l'homme, c'est l'homme, c'est une bête sociale et a besoin de notre, au moins pour pouvoir raconter et donner quelque sens à sa propre vie. L'homme isole le monde, et c'est pas un homme, c'est une autre chose. C'est pas le même animal.
Le même animal. Donc, le même animal. En tout cas, Alvaro Brezhner, quand on rentre dans la salle de cinéma pour aller voir votre dernier film qui sort en ce moment même, intitulé Compañeros, on descend, nous aussi, dans la prison. On va descendre dans ces puits noirs et on ne va pas lâcher ce climat que vous réussissez à créer avec votre caméra, avec les sons que vous utilisez, et aussi avec cette étrange matière cinématographique que vous allez mixer pendant 2h30. Il dure 2h30, votre film.
Oui, 2h10, quelque chose
comme
ça. Oui,
en tout cas, on va très loin. On va très loin dans notre tête, dans notre esprit. On est parti très loin. Et donc, vous allez mixer trois matières cinématographiques. Vous avez employé des acteurs, ô combien prodigieux, pour interpréter les rôles des trois personnages bien réels qui vont subir et traverser ces 12 années de prison. Vous allez utiliser des bandes d'archives qui ont trait à la réalité de votre pays au moment où l'Uruguay a traversé cette dictature militaire. Et vous allez aussi nous donner une leçon philosophique sur la nature humaine. Car vous n'êtes pas du tout un cinéaste manichéen. Il n'y a pas d'un côté les mauvais, de l'autre côté les gentils. Même en prison, ces prisonniers vont se retrouver, pas longtemps hélas, mais ils vont se retrouver face à des gardiens de prison qui quelquefois vont avoir des traces d'humanité. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir tenir et résister. Vous avez tenu à faire un film non politiquement correct, Alvaro Brezhner?
Ouais, mais ça c'est une chose que c'était très impressionnant pour moi de quand je parlais avec eux chaque fois. Et chaque fois c'était une leçon de résilience, une leçon de personnes que toujours, jamais ils ont dit un seul nom, et toujours ils étaient en train de me raconter des petites histoires de petits soldats qu'ils étaient en train de les aider, en train, parce que à la fois ils étaient complètement emprisonnés dans un lieu que c'était vraiment c'était l'enfer. Mais les prisonniers qui étaient en train, 24 heures, en train d'être assurés qu'ils étaient là-bas et tout ça, qu'ils étaient en charge, ils étaient dans une autre type d'enfer, mais quand même, ils étaient prêts. Donc, il y avait beaucoup de temps que des soldats qui ont risqué leur propre destin pour les aider peut-être avec une peine. Peut-être en train de lever un peu la radio pour qu'ils pouvaient écouter un match de foot. Et ça, par exemple, quand ils ont écouté le match de foot, ils m'ont raconté, chacun va te raconter l'histoire, et c'est magnifique comment une chose tellement simple pour nous, pour eux, était le voyage, un ticket pour voyager dehors leur prison. De pouvoir écouter de nouveau un match de foot, c'était pour eux un voyage vraiment à leur vie. Et c'était toujours cette idée de que c'est vrai, c'est chose de Don Quichotte, mais aussi ces choses que dit Shakespeare, on est dans la matière de nos rêves, et cette chose de que les rêves aussi disent tout ce qu'on est, ce qu'on est, mais aussi on est ce qu'on rêve qu'on est. Ça, c'est une chose pour moi, que les rêves, ou c'est que notre fantaisie, c'est pas, il a pas nécessairement une deuxième essence plus simple ou moins importante de ce que de la réalité. Cette idée de qu'on a de la réalité, aussi ce qu'on croit en notre propre fantaisie qu'on fait pour survivre, sont part de nous-mêmes.
Dernière question, Alvaro Brejner, votre film est une leçon politique, c'est une leçon d'humilité et c'est aussi une leçon philosophique sur notre propre liberté. Chacun de nous possède cette liberté. Il faut pouvoir réussir à l'incarner malgré les adversités qui se présentent pour chacune et chacun dans notre existence. On va pas raconter tout le film, mais il y a une séquence absolument bouleversante vers le dernier tiers du film où une femme médecin, par rapport à un des trois prisonniers, qui sont toujours menottés, hein, qui ont leur corps totalement entravé, va adresser des signes de solidarité à l'un de ses prisonniers, comme si la lumière, elle était toujours là, assez proche, du moment qu'on essaye de la voir et de la percevoir. Alors pour vous, comment vous définiriez aujourd'hui ce mot même de liberté ?
Le mot de la liberté, je pense, c'est une chose. On est condamné, et c'est chose de je veux pas de commencer à parler de la philosophie, spécialement à la France, surtout avec les personnes que je peux citer, mais et on est condamné à la liberté. Ça, c'est le problème, c'est que on peut pas s'échapper de la liberté. On peut pas s'échapper même dans les pires circonstances de décider de notre situation, notre acte, de décider quel type de comment on fait face à les circonstances, que même si sont les pires circonstances, et comment on fait face à ça. Et ça, c'est une décision absolument personnelle, qu'on continue à avoir cette liberté de décider comment faire face à cette circonstance.
Ben merci beaucoup, Alvaro Brejner.
Merci à vous, vraiment un plaisir.
Et bravo pour ce nouveau film, donc, qui s'intitule Compañeros, et dont vous êtes le réalisateur, mais aussi le producteur.
Non, pas le producteur, réalisateur et scénariste.
Ah. Merci Alvaro Brejner et bravo pour ce nouveau film intitulé donc Compañeros.
Nul, on m'annonce le départ. papillon noir. Autant en faire quelque chose plutôt que rien. Autant en faire quelque chose plutôt que rien.
C'était Autant en faire quelque chose de Jean-Louis Murat. Merci à Michel Bézikian qui était à la technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Antoine Joubert. Et merci à Lilian Alloum qui a réalisé cette émission. Après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec qui? Eh bien, vous le savez déjà, avec l'ami Mishka Sayas pour la suite de son Very Good Trip.